Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Catherine Spindler. Elle est la directrice marketing de vente privée. Dans cet épisode, Catherine revient sur son parcours. Elle nous parle des outils marketing de vente privée, de leur accélérateur Vente Privée Impulse, de futur de e-commerce et de comment on reste agile quand on est si gros. C'est un épisode court mais passionnant. J'ai adoré interviewer Catherine. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Catherine Spindler. Bonjour Catherine, vous êtes la directrice marketing du groupe Vente Privée. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour commencer ?
Oui, bonjour d'abord. J'ai 41 ans. J'ai démarré ma vie professionnelle dans un tout autre univers puisque je créais des parfums.
Ouais.
Voilà, j'ai eu un parcours de pas mal d'années dans l'univers du parfum et plus particulièrement dans le développement de produits parfumants pour différents pays. Je suis ensuite partie vivre quelques années en Asie où j'ai lancé la marque Yves Rocher. Et ensuite, je me suis occupée pour le groupe Yves Rocher de pas mal de sujets de transformation digitale, de transformation de marque sur certaines marques du groupe. Et j'ai rejoint le groupe Vente Privée, ça fera bientôt 4 ans cet été. Et depuis 4 ans, le groupe a beaucoup changé. On est passé d'un groupe qui était un groupe assez franco-français à un groupe européen. Mmh. On a doublé de taille en 3 ans à travers pas mal de rachats et d'acquisitions en fait, de sociétés. Mmh. Et puis, on a surtout amorcé une très grosse transformation de notre activité, à la fois parce que les clients et nos clients finaux changent, donc forcément il faut s'adapter à ces changements-là, et également parce que une entreprise qui grossit aussi vite, elle a besoin de se restructurer et de se transformer régulièrement pour pouvoir accompagner la mutation et sa croissance.
Très bien. D'après vous, pourquoi vous avez été choisi pour ce poste ?
Alors d'abord, je n'ai pas été choisie pour ce poste. Je suis arrivée dans un tout autre cadre pour faire tout à fait autre chose. Et puis, les hasards de la vie, comme en tout cas pour ma part souvent dans ma vie professionnelle, ont fait que je me suis retrouvée quelques temps après sur ce poste-là. Et je pense que la raison qui fait qu'ensuite, en interne, j'ai été choisie, c'est parce que justement, je ne venais pas d'un parcours traditionnel, que je n'étais pas une spécialiste d'un pure player. Et que je pense que ça, finalement, ça contribuait à rassurer sur le fait que j'allais pas vouloir appliquer des méthodes toutes faites. Voilà. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire depuis que je suis arrivée. C'est aider à transformer, mais avec un regard sans doute un peu différent sur les choses qu'un pur profil, pur player classique.
D'accord. Alors, c'est quoi vos panoplies d'outils marketing chez Vente Privée ?
On va dire que le premier outil, je ne sais pas si on peut appeler ça d'ailleurs un outil, c'est le principe même de notre business model. Et la force, on va dire, de ce business model, c'est de créer des surprises et des événements tous les jours. En fait, on est vraiment sur une marque et une activité extrêmement atypique, puisque bien qu'étant uniquement online, aujourd'hui, on est sur une activité où on n'a quasiment pas besoin, on va dire, d'acheter notre trafic. Notre trafic, il est quasi exclusivement naturel, et pour une raison simple, c'est que notre premier métier, et donc notre premier outil, si je peux appeler ça ainsi, c'est tous les jours de renouveler la vitrine et de faire en sorte que tous les jours, nos membres, nos clients se disent « Tiens, je vais aller voir ce qui se passe le matin à l'ouverture des ventes. » Parce que finalement, les ventes ne sont pas annoncées. On sait rarement à l'avance, alors si ce n'est en allant un peu consulter les prochainement. Mais finalement, on ne sait jamais ce qu'on va trouver en fait sur le site. Et ce côté donc événement renouvelé tous les jours et vitrine renouvelée tous les jours, ça fait partie de nos, on va dire, de nos plus grandes forces. Ensuite, bien évidemment, on est dans un monde du online, du digital, où on a un peu de data, où on a, on va dire une connaissance de nos membres. Donc après, on peut utiliser d'autres types d'outils. Mais finalement, on est dans une approche en fait qui est surtout de créativité et d'événementiel avant tout autre outil en fait de marketing.
Très bien.
Et comment vous allez, enfin, il y a le marketing B2C, mais au niveau du B2B, comment vous allez chercher les marques?
Alors, les marques, d'abord, on a une relation et une tradition très forte avec elles, ouais. Puisque vraiment, on a démarré en étant une entreprise B2B. Mmh. Le premier driver, et on le sait, de satisfaction de nos clients, c'est d'avoir les bonnes marques. Et donc, on a toujours été extrêmement tourné vers le fait de nouer une relation très forte avec nos marques partenaires. Et pour continuer en fait à développer cette relation, alors d'abord elle continue à travailler avec nous parce que on est un vecteur quand même très puissant, on a un trafic très puissant, donc forcément c'est quelque chose qui les intéresse. Ensuite, ce qui les intéresse, c'est la manière dont on traite en fait leur image de marque, à savoir que on a beau être sur un site où on a du discount, ouais. C'est un site, si vous venez le visiter, où en fait vous ne voyez jamais de marqueur de ce discount. Mmh. Vous ne voyez jamais sur la homepage des ventes des gros stickers avec du moins 50, du moins 70. Mmh. Donc on n'est jamais en fait à venir, on va dire, galvauder les marques ou pervertir, on va dire, leur expression. Et par ailleurs, on travaille leur image à travers tout le travail visuel qu'on fait de manière extrêmement qualitative. Donc ça aussi, c'est un des gros atouts qu'elles nous reconnaissent et c'est un asset sur lequel on investit beaucoup. Continuer en fait à exprimer les marques de manière extrêmement qualitative. Et j'ai envie de dire, de toute façon, nous, notre principal sujet, c'est de faire en sorte que les marques qui travaillent avec nous restent en bonne santé pour qu'elles continuent à être attractives. Donc, on a tout intérêt à plutôt nourrir leur marque et l'écosystème des marques.
Je me mets dans la peau d'une marque un peu plus jeune. C'est quoi les prérequis pour pouvoir travailler avec vous ?
Il y en a pas vraiment en fait. Il faut avoir un peu de volume. Alors, on a eu travaillé avec des marques qui vraiment étaient naissantes et qu'on a plutôt aidé justement à se lancer. Ça nous arrive. Ça nous arrive aussi dans le cadre un peu d'opérations spéciales. Ouais. Et là, on peut se permettre des choses un peu différentes. Sinon, en fait, là, en réalité, pour travailler avec nous, c'est vrai qu'il faut avoir déjà un petit peu de volume parce que comme on a beaucoup de trafic, ouais, donc énorme. Beaucoup de demandes, il faut avoir un minimum de volume. Mais derrière, on a fait des dispositifs, on a fait des opérations, ce qu'on a appelé par exemple les baby brands, ouais. On a fait différents types d'opérations où là pour le coup on était vraiment sur des marques qui avaient de très faibles volumes, mais où l'idée c'était vraiment de les aider aussi à se faire connaître. Et donc on a plus travaillé avec elles dans un registre de vente privée un peu plus média finalement et plateforme de lancement pour elles.
Et c'était quoi les retours sur ces baby brands ?
Alors extrêmement bon puisque d'abord elles ont eu des couvertures médiatiques à travers cette opération forte puisque l'équipe avait organisé une très jolie couverture auprès des médias. Donc elles ont eu beaucoup de retombées presse et au-delà de ça, elles ont eu beaucoup de visiteurs en fait sur les opérations sur notre site. Donc forcément pour elles une plateforme de visibilité comme elles peuvent rarement en avoir, surtout à ces stades-là de développement. Et il y a quelques marques qui, très clairement, sont nées et aujourd'hui sont devenues d'assez jolies marques, notamment dans l'univers, j'ai en tête une marque dans l'univers de la maroquinerie, qui est vraiment née à la base en se faisant connaître sur vente privée et qui, depuis, a développé du réseau magasin et de la distribution physique.
C'est qui ?
Je ne sais pas si on cite. je ne vais pas citer, mais en tout cas, ils se reconnaîtront.
Ok, ça marche. comment vente privée répond à la quête de sens de ses clients? Est-ce que vous le sentez déjà? Est-ce qu'il y a vraiment une demande pour ça ou on n'y est pas encore?
Globalement, il y a une quête de sens de toute façon dans la consommation aujourd'hui. Ça, c'est certain. Il y a une quête de sens qui est... une notion de sans doute un peu moins consommée mais mieux de la qualité et au juste prix. Donc nous on répond par la notion de faire profiter de belles marques, de produits qui sont de qualité, le tout en les amenant finalement à un moment en fait de la vie de ces produits qui permet de les avoir vraiment à un très bon prix. Donc en fait la quête de sens elle est partout aujourd'hui je pense dans la société de consommation. Enfin quand je dis partout elle est de plus en plus marquée. Il y a de plus en plus de réflexion et de maturation dans l'achat. Et nous notre force c'est quand même de proposer vraiment des prix qui sont extrêmement compétitifs et qui permettent en plus d'accéder quand même à vraiment des choses de qualité. On n'est pas du tout sur des non-marques, on est vraiment toujours dans ce rapport. Je vous amène des marques qui comptent pour vous et sur lesquelles vous avez une attente, mais ensuite je vous les propose aussi à un bon prix.
Très bien. Comment on reste cool, avant-gardiste, innovant quand on est aussi gros que vente privée?
Bah, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple pour deux raisons. D'abord parce que l'entreprise a grossi extrêmement vite. Et donc, j'ai envie de dire, au-delà même du sujet de la taille, aujourd'hui, pour nous, la principale difficulté a été une croissance extrêmement rapide en l'espace de moins de 15 ans, qui a amené à être effectivement un gros en très peu de temps et à pas permettre en fait de pouvoir se repenser ses organisations, réfléchir différemment au fur et à mesure. On s'est lancé donc là dans un gros travail de transformation de nos organisations, notamment en fait dans une organisation qu'on appelle l'organisation produit, qui permet en fait de réfléchir totalement les organisations, de les structurer en fait en plus petites équipes. Dans chacune de ces petites équipes, on met les différentes expertises qui vont permettre en fait d'atteindre un objectif. Et donc on modifie vraiment la manière de travailler au lieu d'être dans une organisation métier où vous avez d'un côté toute la production, toutes les expertises en fait, on va dire découpées les unes à côté des autres et qui doivent à un moment donné s'accorder. Là en fait, on crée vraiment des équipes pluridisciplinaires, autonomes et qui sont responsables en fait d'un objectif. Et pour faire en sorte que par contre on n'ait pas quelque chose qui soit dissonant, parce que à force d'avoir que des petites équipes comme ça, on pourrait aussi avoir des choses très dissonantes. Après, on a un petit peu en fait de fonctionnement en matriciel où on a des leads d'expertise transverses qui vont s'assurer que ce qui est fait dans les différentes équipes donne un sens global en fait à l'entreprise.
Mais ça peut être quoi ces sujets particuliers que traitent ces équipes-là?
Par exemple, j'ai une équipe qui est en charge de tout ce qui est donc ce qu'on appelle on parle en anglais, donc les first time buyers. Donc c'est nos premiers acheteurs. Dans cette équipe-là, il y a vraiment toutes les compétences, y compris IT, pour faire en sorte d'atteindre un objectif sur l'année qui est de recruter tant d'acheteurs. Et ils ont toutes les compétences et ils sont pas dépendants d'autres types en fait de compétences dans l'entreprise. Donc entre guillemets, ils ont que cette priorité là et en plus ils ont les moyens à travers les expertises qui sont à bord de l'équipe de le réaliser. C'est des petites équipes en général, c'est difficile d'imaginer des équipes de plus de 12-14 personnes sur ce genre de mode de fonctionnement. Et donc pour revenir à votre question, c'est en travaillant comme ça qu'on arrive à retrouver de l'agilité. Mais c'est vrai que c'est pas simple et que c'est globalement le souci de beaucoup d'entreprises qui effectivement ont atteint une certaine taille. Que ce soit donc des entreprises anciennes qui ont toujours été un peu des gros mastodontes et qui ont du mal à se repenser en fait leur manière de fonctionner, ou des entreprises plus récentes comme la nôtre mais qui ont grossi très vite. Après, la notion d'agilité, c'est aussi vraiment un état d'esprit. Nous, on a la chance en fait d'être dans une entreprise en fait qui a été conçue vraiment et créée par des entrepreneurs. Donc forcément, on a une culture de toute façon entrepreneuriale et intrapreneuriale qui est assez développée, qui permet donc plus facilement aussi de faire bouger les lignes. Mais pour autant, voilà, c'est quand même un vrai travail de transformation d'arriver à regagner cette agilité. Et l'agilité, tout le monde n'est pas ouvert à ça en fait. Et c'est pas qu'une histoire de génération pour le coup. C'est-à-dire que moi, je considère aujourd'hui, de ce que j'observe, c'est que par moments, c'est des gens un peu plus âgés finalement
qui sont plus agiles
dans leur manière de réfléchir. Parce que l'agilité, c'est quoi? C'est des sujets d'organisation, c'est des sujets d'avoir les moyens de faire des choses, mais c'est aussi finalement une vraie capacité à se remettre en question. Et ça, en fait, il y a différentes natures. Et voilà. Et ce que je constate, c'est que on a des équipes qui sont relativement jeunes. Pour autant, c'est pas une histoire, en fait, uniquement de génération. Ou en tout cas, ça serait un peu un raccourci de parler d'histoire de génération.
Mais dans le quotidien, ça veut dire quoi, rester agile? Qu'est-ce que vous dites à vos collaborateurs pour rester flexible, agile en permanence?
Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on dit, c'est que d'abord, on est dans un monde qui bouge beaucoup et où je pense que personne ne peut véritablement prédire ni la manière dont la consommation va évoluer, ni la manière dont l'univers du retail et du digital vont évoluer, ni la manière dont les gens vont continuer à se comporter et à attendre et à être dans une relation aussi avec nos marques. Donc, on est dans un monde où c'est très difficile d'être dans un côté prédictif comme ça ça a pu être l'être par le passé. Avant, faire du marketing, c'était de dire, bah voilà, la tendance dans 10 ans, ça sera ça. Donc voilà comment on y va. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Donc, ce qu'on dit, c'est, on est dans un monde qui bouge. Donc en fait, il faut regarder nos principaux sujets du moment et voir comment efficacement on essaie de les améliorer. Mais pour que ça ait du sens, il faut être capable de l'améliorer rapidement. Si c'est des projets qui sont déjà à 2 ans, en fait, à part des gros projets un peu, on va dire, structurants sur des grosses infrastructures IT, etc. Mais sinon, dans l'absolu, un projet déjà à 2 ans, ça veut dire que c'est un projet qui est déjà quasiment mort-né, puisque en fait, il arrivera trop tard par rapport à ce que...
Donc c'est sur des projets de quoi? De 3 mois, de 6 mois?
Ouais,
c'est 3 mois.
C'est vraiment 3 mois.
Ouais. Ok.
3-6 mois.
Vous avez créé Vente Privée Impulse, donc l'accélérateur de Vente Privée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots la genèse de Vente Privée Impulse et quels sont les retours? Est-ce qu'il y a vraiment des retours très positifs sur ce,
ouais,
sur ce sujet?
Alors, plusieurs choses. Donc, quand on a entendu parler, en fait, de l'ouverture de Station F, on s'est dit que, déjà, il fallait aller regarder un petit peu ce que ça allait être. Et en fait, on s'est aperçu que ça allait être un lieu extraordinaire. Et ça, c'est vraiment, en fait, un gros coup de chapeau, en fait, pour avoir eu cette idée. Et puis surtout avoir investi pour en faire ce lieu. Mais que finalement, c'était d'abord et avant tout un lieu, et que si on voulait que ça devienne le cœur aussi du développement de start-up en Europe, il fallait qu'il y ait des entreprises qui s'engagent à côté pour pouvoir accompagner ou aider ensuite les start-upers en tant que tels à avoir soit une lampe de lancement, une rampe de lancement, pardon, soit à pouvoir tester leur solution. Parce que si c'est qu'un lieu, c'est très beau, c'est magnifique et c'est un lieu avec plein de services, mais ça sera insuffisant pour en faire le poumon d'une forme soit de nouvelle économie, soit d'un accélérateur en tout cas de création de start-up qui arrive à scaler. Deuxième sujet, c'est que on s'apercevait que dans l'univers du retail et de la mode en particulier, très très peu de choses ont bougé. Et on se disait, nous qui sommes de cet univers-là et qui travaillons avec beaucoup de marques, on trouverait intéressant finalement d'essayer de repérer des startups qu'on pourrait aussi proposer en fait à nos marques avec lesquelles nous travaillons pour les aider à réfléchir aussi sur la manière de réinventer leur parcours de distribution, leur expérience retail, toujours dans une logique où comme on a cet ancrage B2B, on trouvait intéressant finalement de faire un peu une passerelle entre ces deux mondes-là et de le proposer à nos marques partenaires. Troisième sujet, c'est que on a beaucoup de projets en interne, mais au bout d'un moment, on est limité aussi par un certain nombre de ressources. On se disait que ça pouvait être intéressant de regarder si, à travers des startups, on pouvait pas accélérer certains de nos sujets ou certains de nos idées en s'aidant en fait de ces startups. Voilà, donc c'est un peu les éléments qui nous ont amené à nous positionner pour être le partenaire donc fashion, tech et retail de Station F. On a été le premier partenaire, c'est nous qui avons en fait été les premiers à arriver. D'ailleurs, notre place dans les locaux le montre, on est le tout premier en arrivant. On en est à la 3e promotion. En général, dans une promotion, il y a à peu près 5 startups qui restent entre 6 mois à 9 mois. À date, ce qu'on se dit, d'abord, c'est pour nos équipes et pour les startups, ça crée des passerelles et on va dire des échanges et une manière de se challenger dans la manière de travailler qui est quand même extrêmement intéressante. Premier point. Deuxième point, on a identifié clairement des startups sur lesquelles on va soit signer des contrats commerciaux, soit voire même aller un peu plus loin dans nos modalités de fonctionnement, parce que ce sont des solutions en fait qui nous permettent d'accélérer sur certains sujets qui nous intéressent. Troisième point, on a notamment fait une grosse conférence où on a fait se rencontrer 200 de nos marques partenaires avec la première promotion de start-up, ce qui a créé pas mal de leads pour ces start-up. Et donc on y voit une très belle source en fait de à la fois d'accompagnement de jeunes pousses en essayant de les aider notamment par le test de leur solution sur un écosystème avec autant de data et autant de volume que Vente Privée, ce qui pour elle est quand même une super courbe d'apprentissage. Et pour nous, à la fois une manière de se challenger dans nos pratiques justement d'organisation et de travail et d'identifier par ailleurs des solutions qui nous intéressent particulièrement. Voilà.
Très bien. C'est une question hyper large et très compliquée, mais c'est pour vous, c'est quoi le futur du e-commerce ?
Très compliqué, effectivement. Le e-commerce aujourd'hui, alors moi, je n'ai pas envie, en tout cas, de croire, et je n'y crois pas, qu'il n'y aura plus qu'un seul acteur, comme certains veulent bien le dire. Je pense que le e-commerce, c'est une facilité. C'est une facilité de consommation, que donc elle sera forcément très présente. Mais je pense que de plus en plus, on verra des connexions très fortes entre du physique et du online, parce que les gens ont quand même besoin de sens, pour revenir à votre point de tout à l'heure, et que finalement, des rapports quand même aussi dans un monde plus physique et moins virtuel, les gens en ont aussi besoin. Donc, très honnêtement, répondre à votre question, elle est complexe. Je dirais que le e-commerce restera une facilité du quotidien, donc extrêmement utilisée, mais ne sera pas le seul moyen de consommation, ni le seul moyen de communiquer, et que on risque aussi de voir peut-être des sociétés qui vont de plus en plus aussi se scinder dans leur manière de consommer.
Ouais. Très bien. Alors vous recrutez, j'imagine, vous recrutez beaucoup. À l'heure où beaucoup de jeunes ont envie de démarrer leur business, vous allez chercher ces candidats où, et qu'est-ce que vous recherchez chez les jeunes diplômés ?
Alors nous aujourd'hui, c'est vrai que nos principaux axes de recrutement sont sur des fonctions qui sont soit des fonctions de développeur, soit des fonctions d'analyste, data scientist, pas mal. Et après, bien évidemment, on cherche d'autres profils. On cherche essentiellement des talents qui ont l'esprit entrepreneurial. Ça, c'est extrêmement important. Donc en fait, je pense que à ce titre-là, on peut répondre à cette envie qu'ont les jeunes aussi d'entreprendre, mais le tout en ayant une forme de sécurité aussi, finalement, qu'ils n'ont pas forcément de la même manière en se lançant directement eux-mêmes dans le projet d'une création d'entreprise. Donc, on cherche en fait des gens. On n'est pas du tout dans une recherche de diplôme, de moins en moins. C'est plus des profils, des personnalités, une dynamique entrepreneuriale et on a un socle de valeurs et, on va dire, d'attitudes qu'on promeut en fait dans l'entreprise, qui font partie de notre culture d'entreprise et sur lesquelles forcément on va attacher de l'importance dans la sélection.
En quoi les jeunes diplômés d'aujourd'hui, les gens que vous recrutez, ils sont différents de ceux de votre génération ?
Ils sont différents parce que ils peuvent très vite se désinvestir s'il n'y a pas le sens qu'ils attendent. Et alors après, ce qui est très compliqué, c'est de définir ce fameux sens qu'ils attendent.
Ouais.
Les générations d'avant, il y avait quand même, avec des hauts et des bas dans l'entreprise, mais il y avait quand même, je trouve, une notion d'engagement extrêmement forte, quels que soient les moments, on va dire, les pics de passage plus ou moins, on va dire, facile en entreprise. Aujourd'hui, en fait, les jeunes ont plus cette envie-là. Parce que je pense qu'ils ont observé aussi beaucoup de choses dans la génération de leurs parents. Donc aujourd'hui, ils sont tout à fait prêts à s'engager. Mais par contre, ça peut être beaucoup plus fugace si le sens qui leur est donné, si l'intérêt des tâches et la manière aussi d'avoir une rotation sur ces tâches-là n'est plus assez importante. Et donc forcément, pour les managers et pour les équipes en fait managériales, c'est forcément des remises en question fortes parce que on peut pas forcément, surtout avec des grosses tailles d'équipe tous les jours, être au rendez-vous peut-être pour ces générations qui sont ultra exigeantes dans cette quête de sens quotidien. Mais bon, si on arrive à bien les animer par rapport à ça et leur donner ce sens, je pense que par contre, ce sont des générations qui sont extrêmement intéressantes parce que proactives, avec des idées, avec l'envie de faire bouger les choses, et que donc globalement, les entreprises ont tout intérêt à réussir à développer ces talents.
Est-ce qu'il y a dans le monde du e-commerce et de la mode des entreprises ou des gens qui vous impressionnent plus particulièrement ou qui vous interpellent en tout cas ?
D'abord, chez tous ces jeunes, et notamment à Station F, j'observe Il y a un écosystème incroyable. Hein. Alors, avec malheureusement assez peu peut-être qui survivront, en tout cas dans cette première étape d'entrepreneuriat. Mais je trouve, en tout cas, un nombre de jeunes de moins de 25 ans qui sont avec des idées, une énergie et une vision qui m'impressionne énormément. Donc, j'ai envie de dire, je suis déjà très impressionnée par ce que j'observe à ce titre-là. Ensuite, il y a quelques chefs d'entreprise, oui, que j'admire ou que, en tout cas, je suis avec intérêt, parce qu'ils arrivent quand même à continuer à transformer en fait leur activité, alors même que on est dans un monde qui est complexe. Et si je prends quand même l'exemple de la société dans laquelle je suis, et c'est sans flagornerie du tout, mais c'est vrai que Jacques-Antoine a réussi en 17 ans à créer quand même une des vraies licornes françaises, il y en a quand même très peu, à rester indépendant. Et à résister en tout cas pour conserver en fait cette indépendance qui nous a quand même permis de devenir un des leaders en Europe, à créer beaucoup d'emplois et en l'espace, là je le disais tout à l'heure, des trois dernières années, on a doublé de taille en fait sur les marchés européens. Donc on est quand même en France en particulier sur des hommes et des femmes qui sont assez impressionnants dans leur capacité à créer de la valeur. Et on se flagelle beaucoup en France. On parle beaucoup de l'amorosité, etc. On en parle toujours. Alors c'est, même si ça a été un peu moins peut-être mis en scène par les médias ces derniers mois, mais quand même, c'est toujours été un sujet. Moi, je trouve qu'il y a une énergie qui est assez incroyable et qu'il faut qu'on réussisse justement à continuer en fait à la pérenniser.
C'est clair. Et vous, c'est quoi votre moteur ?
C'est les gens. Moi, en fait, mon principal moteur, moi, je suis quelqu'un d'assez passionné, mais forcément, quand je fais quelque chose, en général, je le fais plutôt à fond. Mais mon premier moteur, c'est les gens et au sens construire des choses avec les gens qui m'entourent.
Et si vous pouviez changer quelque chose dans votre carrière, qu'est-ce que vous changeriez ?
Moi, j'ai peut-être raté ma première vie. En fait, je voulais être photographe. Donc, voilà, je voulais être photographe et c'est mes parents qui m'en ont empêché, en pensant que c'était pas un métier. Je resterai sans doute toujours un peu avec ce regret-là et puis peut-être qu'un jour, je me lancerai. Mais sinon, rien. Rien. J'ai la chance, et c'est une chance, hein, d'avoir eu un parcours pas du tout prévu. J'ai commencé par la partie parfum parce que c'était une de mes autres passions. J'ai réussi assez vite à rentrer dans cet univers-là et à y prendre beaucoup de plaisir. Ensuite, la vie, mais c'est plus les hasards de la vie ont fait que je suis partie vivre en Asie, que voilà. Et puis tout s'est fait en fait, jamais avec un plan de carrière. Et d'ailleurs, j'ai pas du tout un parcours en fait classique et linéaire. Donc et à chaque fois, ça a été des rencontres. L'envie et la motivation de travailler avec des gens avec qui j'avais envie de travailler. Voilà.
Très bien. Et dernière question pour passer le relais. Qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast ?
Ah, j'avais pas préparé ça. Qui je souhaiterais entendre ? Moi, j'aimerais bien entendre Bernard Arnault. Je l'ai écouté l'autre jour quand il lançait son plan sur les startups, etc. C'est un homme qui m'impressionne parce que je pense que il a réussi à combiner. D'abord, il a réussi à construire un groupe qui est quand même assez exceptionnel à donner un sens à la création aux artistes et en même temps. Je trouve que par certains choix qu'ils font, ils vont pas jusqu'au bout de leurs idées. Donc, j'aimerais bien l'entendre sur sa vision et puis comment il voit le monde de demain aussi dans cet univers du luxe qui a quand même beaucoup de mal à se réinventer. Quelle est sa vision sur ce sujet ?
Très bien, mais vous me mettez la barre assez haut. Mais je vous appellerai pour préparer l'interview ensemble.
Sans problème.
Merci en tout cas pour votre temps et à très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.